Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les enjeux internationaux, Areva, Safran, TV5 Monde, Bercy et même le téléphone d'Emmanuel Macron depuis les années 2000, la France a lentement pris conscience de l'ampleur des cyberattaques défiant ses systèmes de sécurité avec des coupables parfois difficiles à déceler, mais parmi les accusés, on trouve la Russie, la Chine, le Maroc. Bonjour Martin Untersinger.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, vous publiez un ouvrage absolument passionnant, Espionner, mentir, détruire, comment le cyberespace est devenu un champ de bataille. C'est aux éditions Grasset. Alors il faut revenir sur le cas que vous analysez, il faut remonter pour cela en 1987 aux États-Unis. Jusqu'à présent, les États n'avaient pas conscience que leur réseau informatique était espionné et puis les choses ont progressivement changé. Expliquez-nous.
Oui, c'est un peu le premier cas d'espionnage étatique. C'est un astrophysicien qui s'appelle Clifford Stoll qui travaille à Berkeley, donc dans la baie de San Francisco, et qui doit s'occuper du réseau informatique de sa fac. Et un jour, il s'aperçoit qu'il manque 75 centimes au décompte d'utilisation des ordinateurs. À l'époque, chaque ordinateur qui était utilisé, il fallait payer chaque minute d'utilisation. Et donc, en fouillant comme ça, il se rend compte, en fait, finalement, qu'il y a un intrus à l'intérieur du système informatique. Et de proche en proche, en investiguant, en mettant en place des premières techniques d'analyse de sécurité informatique, il se rend compte que ce sont des Russes, en fait, en réalité. Ce sont des pirates allemands qui travaillent pour le compte du KGB, qui ont infiltré son ordinateur, mais pas uniquement le sien, mais qui sont servis pour rayonner un peu dans tout un tas de systèmes informatiques aux États-Unis, au sein de l'armée, au sein de laboratoires de recherche, et qui sont à la recherche d'informations sensibles. Donc c'est vraiment le premier cas que j'ai identifié, il y en a peut-être eu auparavant, mais en tout cas, publiquement, c'est le premier cas identifié d'espionnage, de cyberespionnage étatique.
Mais ça veut dire que avant, on n'imaginait pas finalement que les ordinateurs puissent être espionnés, alors que les ordinateurs, bon, a posteriori, tout est plus simple. Hein.
Oui.
Et bien sûr, on sait qu'ils contiennent des données extrêmement
précieuses. Alors, à l'époque, il y avait l'informatique n'est pas aussi répandue, ce qui explique aussi pourquoi ça a mis aussi du temps à émerger.
Et l'autre exemple d'attaque d'entreprise d'armement, alors cette fois-ci c'est beaucoup plus français, c'est Safran.
Oui, tout à fait. Safran qui produit des moteurs d'avions en Chine et qui a recruté pour ce faire tout un tas d'employés chinois. Sauf que parmi ces employés chinois, il y avait deux taupes, deux salariés qui travaillaient directement pour les services de renseignement chinois et qui ont participé à une large opération de cyberespionnage pour voler des secrets de Safran, en ayant des taupes à l'intérieur, des gens vraiment qui travaillaient, notamment le responsable de la sécurité informatique de l'usine. Ça a permis aux renseignements chinois de disposer d'un accès privilégié, notamment de disposer sur les ordinateurs de cadres français qui venaient depuis la France dans l'usine, avec des clés USB sur leurs ordinateurs portables, de disposer des logiciels espions.
Et alors, là aussi, Martin Untersinger, comment s'apercevoir de cela? Est-ce que ça veut dire qu'il faut finalement voir physiquement ces personnes? Parce que là, on a des taupes qui sont dans l'entreprise. Alors, c'est grâce à elles, si j'ose dire, qu'on se rend compte qu'on est espionné?
Alors, même pas, parce qu'en l'occurrence, c'est plutôt un mélange d'erreurs informatiques faites par les espions et une alerte donnée par les Américains que les Français, et notamment le service de renseignement intérieur, à l'époque la DCRI, se rend compte qu'il y a un problème et que Safran est attaqué. Mais c'est tout le problème avec ce genre d'opérations, c'est qu'elles sont conçues pour être extrêmement discrètes, extrêmement silencieuses, et parfois il faut un peu de chance pour s'apercevoir qu'elles ont lieu.
Et donc si l'on a affaire à des taupes, ça c'est une chose, et il y a aussi beaucoup d'autres cas où il n'est pas utile d'avoir des taupes dans l'entreprise pour être espionné.
Non, c'est toute la puissance de ce type d'attaque informatique et de l'espionnage à l'ère numérique, c'est que toute organisation, toute entreprise, toute administration qui est sur Internet, qui utilise des réseaux informatiques, peut être vulnérable, et aujourd'hui, l'espionnage, ça a 2000 ans d'histoire, mais le cyberespionnage, ça le fait passer dans une dans une nouvelle ère. On est capable de siphonner sur des années entières des milliers et des milliers de documents, là où auparavant il fallait avoir un accès physique, exfiltrer document par document. Donc c'est vraiment aujourd'hui, quand on parle à ceux qui sont en première ligne au sein de l'État dans la défense informatique, ils disent le cyberespionnage, c'est vraiment la menace principale. Ça met une pression folle sur notre économie, sur notre diplomatie, et ça met même en jeu notre indépendance, notre souveraineté, parce que quand vous avez des entreprises de défense qui n'ont plus aucun secret, ou une diplomatie qui n'a plus aucun secret pour ses homologues, ça pose quand même quelques problèmes.
Surtout que je vais enfoncer une porte ouverte, mais là, bien entendu, vous évoquez les cas de cyberespionnage qui ont été avérés. Les autres, c'est plus compliqué.
Absolument. Les gens qui sont dans le domaine sont bien conscients de ne voir que la partie visible d'un iceberg gigantesque. Et comme les États qui aujourd'hui font du cyberespionnage de manière assez massive, je pense en particulier à la Chine, ont vraiment des compétences qui sont allées exponentielles, qui ont des dizaines de milliers de personnes responsables.
Oui, parce que j'allais vous demander justement comment il fallait se représenter les choses. Est-ce qu'on a affaire à des armées? Alors si oui, de combien de personnes avec des claviers, des écrans qui cherchent en permanence à pénétrer nos systèmes informatiques?
Une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est que souvent on a l'image du hacker, l'adolescent boutonneux dans sa chambre, dans le garage de ses parents. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, les menaces informatiques, elles sont le fait d'État, elles sont le fait de services organisés, elles sont le fait d'armée, donc c'est des gens qui vont dans des casernes, qui badgent à l'entrée, qui ont une hiérarchie, qui ont des plans, des ordres, qui rendent compte. Notamment la Chine, on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de ces agents qui sont spécialisés dans le piratage informatique, et elle a fait du cyberespionnage en particulier un des axes majeurs de son action extérieure, pour rattraper notamment tout un tas de domaines, et même maintenant dépasser ses homologues occidentaux. Donc c'est vraiment une menace permanente, une pression constante, et on ne voit qu'une toute petite partie de ce qui est fait, malheureusement.
Et puis il y a le cas de Pegasus. Alors Pegasus, on en a parlé, c'est un logiciel espion qui se loge sur un téléphone portable.
Oui, ça pour moi c'est un petit peu le rejeton un peu de cette course à l'espionnage ultra sophistiqué, parce que NSO c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est une entreprise qui vit en symbiose avec l'armée israélienne, et l'armée israélienne et l'État d'Israël de manière générale est un des pays les plus avancés en matière d'espionnage numérique. Et en fait ce sont des compétences qui sont créées au sein de l'État, qui ensuite essaiment dans le secteur privé et donnent naissance à des entreprises et à des logiciels ultra sophistiqués qui ensuite sont commercialisés. Et c'est là que ça pose un problème énorme. C'est que avant, pour constituer des capacités de renseignement numérique, il fallait énormément d'investissements, il fallait de longues années pour former, pour concevoir des systèmes. Avec les logiciels de type Pegasus, mais il n'y a pas que Pegasus, n'importe quel État, et y compris des États autoritaires ou des États qui n'ont pas forcément de ressources importantes, peuvent sur étagère, en sortant le carnet de chèques, se payer des logiciels espions ultra sophistiqués qui les font rentrer finalement dans le cercle des pays très puissants en matière d'espionnage.
Et c'est si compliqué que ça d'infecter un téléphone portable?
Ouais, aujourd'hui un téléphone récent des marques qu'on connaît et sont relativement protégés. Tout l'enjeu, c'est d'arriver justement à trouver une porte d'entrée dans ces téléphones. Et c'est pour ça que ces entreprises monnaient de tels logiciels, c'est que c'est extrêmement complexe, surtout d'y rester pendant longtemps, de capter les appels, les photos, les images, etc. Donc c'est un service qui est monnayé extrêmement cher.
Et par ailleurs, bon, c'est une sorte de d'hasard terrible, mais le 7 octobre, on n'a pas été détecté par les services israéliens.
Non, parce qu'en fait, et c'est valable pour Israël, mais c'était valable aussi en son temps pour les États-Unis, juste avant le 11 septembre, c'est que on a tendance parfois à peut-être trop mettre de foi dans le renseignement technique, dans les capacités numériques, en se disant « je capte tout un tas d'informations, donc je ne peux en manquer aucune ». En fait, c'est compliqué parce que le cyberespionnage s'accompagne aussi d'une massification de l'information et de la quantité d'informations captées. Et c'est parfois difficile d'extraire dans toutes ces informations l'information pertinente, surtout qu'on sait maintenant que le Hamas avait s'était organisé de manière justement ne pas recourir à des technologies numériques, voire même à planifier cette opération à des échelons inférieurs de ce qui pouvait être attendu.
Très rapidement, Martin Untersinger, est-ce qu'aujourd'hui, la France a pris la mesure de cette menace et s'est protégée de manière suffisamment efficace?
Alors, oui, globalement, elle a pris la mesure de cette menace. Je pense qu'on fait partie des pays qui sont les mieux dotés en matière de défense, à la fois en termes de quantité de personnel et aussi de technicité, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'en face, les capacités des attaquants augmentent. Et quand on fait face à un pays comme la Russie, par exemple, qui est dans une stratégie de offensive et de conflictualité hybride terrible, on est forcément jamais assez préparé.
On retrouve tout ça dans votre très bon livre, Martin Untersinger, Espionner, mentir, détruire, comment le cyberespace est devenu un champ de bataille. Et votre livre est paru aux éditions Grasset dans quelques instants. On va suivre Alexandra Delbaudon avec Science. On va la suivre pendant 10 000 pas au moins parce que voilà, c'est ce qu'il faut marcher chaque jour, nous dira-t-elle.